Dessiner, Charlie, une impossibilité, c'est la règle de trois de Riss. Dessiner constitue une activité presque naturelle pour le jeune Laurent Sourisseau alias Riss. Son père dessine l'île de Canard Enchaîné et Harakiri. Riss aime Rezer, Gottlieb et Franquin, le génial créateur de Gaston Lagaffe et Idées Noires.
Dessiner est une activité d'enfant. Hein. Les enfants dessinent et s'amusent et moi j'ai continué.
Après le service militaire, Riss entame des études de droit. L'univers judiciaire le fascine. Bien plus tard, il suivra les procès Touvier et Papon avant de publier les croquis d'audience de 18 procès d'assises dans un hors-série intitulé Tour de France du crime.
Tous les crimes sont un peu déboutants puisque on se demande bien ce que la personne a fait pour se faire tuer.
En 1992, Charlie Hebdo renaît dans une nouvelle formule avec Cabu, Luz et Charb.
On a fait un panel représentatif.
De 1000 cons.
De 1000 cons.
Pour solliciter leur avis.
Pour savoir quel journal ils voulaient voir. Et quand on a su le résultat, on a fait exactement le contraire.
Riss fait partie de cette équipe dont il a rencontré de nombreux membres un an auparavant à la Grosse Bertha. Être publié, c'est un peu comme montrer son cul à tous les passants, dit-il. Un exhibitionnisme auquel il s'adonne donc chaque semaine depuis presque 30 ans. En 2009, il co-dirige Charlie Hebdo avec Charb. En 2011, les locaux du journal sont détruits par un incendie criminel.
Je comprends parfaitement que des gens n'aient pas envie de rigoler quand ils lisent Charlie Hebdo. Mais qu'ils ne lisent pas Charlie Hebdo.
Après l'attentat du 7 janvier 2015, dont Riss réchappe en se jetant à terre, blessé par balle à l'épaule et désirant plus que tout faire mentir les frères Kouachi qui criaient « On a tué Charlie Hebdo », il endosse la responsabilité de directeur de la publication.
On ne sait rien faire d'autre. On est un journal satirique, humoristique. Voilà, on continuera à faire un journal satirique et humoristique.
La première phrase de son livre, 1 minute 49 secondes, soit le temps qu'a duré la tuerie, dit l'impossibilité d'écrire quoi que ce soit. Se croire capable de partager cette expérience avec les autres est une entreprise perdue d'avance, écrit ensuite Riss. Il y parvient pourtant, en 312 pages. Il fallait l'écrire, dit-il, ne serait-ce que parce que j'avais peur que cela disparaisse avec moi.
On l'a vu, Riss, dans le sujet de Gaël Legras, il y a eu des signes avant-coureurs, il y a eu des alertes avant l'attentat, il y a eu le procès qui vous avait été intenté au journal en 2007, après la publication des caricatures danoises, il y a eu l'incendie du siège du journal en 2011. Est-ce que ça veut dire que le reste peut-être du pays n'y croyait pas trop, mais que vous saviez, vous redoutiez que se produise ce qui est arrivé en 2015?
On ne pouvait pas être sûr et certain que ce qui s'est produit en 2015 allait arriver. Enfin, on espère toujours que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai qu'on s'est lentement aperçu qu'il y avait quand même dans ce pays une forme d'intolérance nouvelle auquel on n'était pas habitué, ni nous, et pas plus d'ailleurs que le reste du pays. Donc il a fallu du temps pour l'intégrer. Peut-être qu'on l'a intégré plus vite que les autres, parce qu'on a été confronté chronologiquement avant les autres. Mais voilà, maintenant, c'est quelque chose aussi, aujourd'hui qui touche un peu tout le monde. Quoi. C'est plus uniquement les dessinateurs qui sont concernés.
Vincent. Dans votre récit très impressionnant, on découvre une ironie terrible, c'est que Charlie Hebdo, qui est le lieu viscéralement antimilitariste, est frappé par un acte de guerre. Et c'est votre service militaire qui vous sauve la vie.
C'est la chance qui me sauve la vie. Oui, c'est comme ça que j'explique, qu'après coup on peut expliquer les choses. Mais
votre réflexe au moment où les frères Kouachi rentrent dans la salle de rédaction, vous?
Les frères Kouachi, moi j'en ai vu qu'un seul. Ouais. Oui, j'ai pendant une fraction de seconde j'ai hésité, j'ai fait ce que j'avais appris, ou c'était un acte réflexe, je me suis jeté au sol. Voilà.
– Jeté au sol comme au service militaire, quand on entend des grenades, on se jetait au sol.
– Voilà, c'est ce qu'on apprenait.
– Il y a effectivement toute une ironie dans un journal.
C'est-à-dire que dans les moments extrêmes comme ça, vous réunissez tout ce que vous avez glané durant votre vie pour survivre, voilà, quelle que soit l'origine, quelle que soit…
Franquin dit dessiner est une activité d'enfant. Quand on choisit d'être dessinateur, est-ce qu'on imagine qu'on va être au cœur de ce qu'il y a de plus tragique dans l'histoire, au cœur de l'histoire, comme vous l'avez été?
En fait, quand on est dessinateur de presse, je ne vais pas dire que je savais, mais dessinateur satirique, dessinateur politique, ce n'est pas exactement la même chose que dessinateur de bande dessinée. Oui, c'est vrai que c'est un engagement et on prend des risques. On prend des risques d'irriter les gens, on prend des risques de s'opposer à des pouvoirs en place. On voit dans des pays des dictatures.
Parce que c'est pas juste un journal de blagues, c'est un journal avec un propos.
Ça a toujours été un journal politique, contestataire, dans une forme satirique. Ouais. Mais Tant qu'on est dans une démocratie qui nous protège, ça va. Mais si demain l'air du temps change, on ne sait pas ce qui va arriver.
Et vous racontez, puisque vous racontez aussi l'hôpital ensuite, vous avez été gravement blessé, hein, vous, le 7 janvier 2015. Ensuite, il y a donc ces semaines d'hôpital. À l'hôpital, à un moment, vous avez la tentation, à un moment peut-être, de lâcher Charlie, de fuir. Et puis vous ne le faites pas. Pourquoi vous avez décidé de repartir
Vous savez, quand vous êtes au fond du lit à l'hôpital, vous pensez à beaucoup de choses. Donc c'est surtout que je me demandais si physiquement je serais capable de... Dans quel état je serais dans un mois, dans deux mois, j'en savais rien du tout. Mais la volonté, je me disais, il faut continuer le journal d'une manière ou d'une autre parce que c'est une démarche politique, c'est un combat politique. On ne peut pas, dans une démocratie, laisser un journal disparaître. Mmh. Et je pense que ça aurait été la même chose pour n'importe quel autre organe de presse. Imaginez qu'en France, un journal disparaisse à cause d'une attaque terroriste, ça aurait été, comme on dit, un signe terrible. Donc, que ça nous plaise ou non, à l'endroit où on était, à la place où j'étais, il fallait continuer d'une manière ou l'autre à le faire. Après, bon, c'est vrai que physiquement, j'étais pas très vaillant, quoi.
Et depuis cet attentat, donc depuis près de 5 ans maintenant, il y a d'autres unes de Charlie qui ont continué à faire polémique, Nadia.
Oui, pour reprendre vos propres mots, vous continuez à faire chier le monde, et même plutôt bien, parce qu'il y a plusieurs dessins qui ont été publiés, soit en une, soit en page intérieure, qui ont suscité des controverses, des polémiques, des « bah finalement, je ne suis pas très Charlie ». Le dernier dessin en date, c'est celui qui avait été publié à l'occasion de la Coupe du Monde de football féminin, on s'en souvient bien, et on se souvient également que la chaîne CNews avait choisi de le censurer, ils n'avaient pas montré la une. Vous aviez d'ailleurs publié après un article, disait CNews n'ose pas le clito. C'était ça.
Quelle pudeur.
Ouais, et juste avant, on se souvient également, juste avant le décès de Johnny Hallyday, vous êtes mis une partie de ses fans à dos avec ce dessin. Beaucoup y ont vu une forme de blasphème. Donc Johnny, la tournée de rock est sommée à l'électro, en dessin de vous d'ailleurs. Ou encore, alors là on est sur un autre registre, il est toujours de vous ce dessin. C'était cette une qui caricaturait la présidente de l'UNEF à Paris 4, qui avait été qualifiée d'islamophobe par des citoyens, puis aussi par des représentants politiques. Alors des critiques, il y en a, des insultes, il y en a sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Des menaces de mort, il y en a aussi. Il y en a encore.
En fait, c'est par bouffée, je dirais. Voilà. Par moment, effectivement, les gens s'excitent sur des choses très sensibles, qui pour eux sont sensibles, puis après ça se calme, ça dépend un peu de l'actu, en fait.
Ouais.
C'est vrai que les couvertures ou les dessins qui sont un peu polémiques, ils viennent un peu en fonction de notre inspiration, de ce que l'actu nous aspire.
Mais ça va encore jusqu'à la menace de mort, malgré ce qui s'est passé en 2015
En fait, moi j'ai même l'impression que ça a décoincé les gens, ils se lâchent.
Ouais. Une forme de banalisation de la menace de mort, j'en ai.
En fait, c'est des menaces de mort, on ne sait pas si elles sont sérieuses, mais la parole est là.
La parole est...
Vous vivez toujours sous surveillance, vous avez toujours des gardes du corps.
Oui.
Ça fait donc plus de 5 ans que ça dure. Vous vivez au jour le jour, votre vie a changé, votre vie quotidienne a changé.
Oui. Mais elle a changé, oui, c'est vrai.
Mais comment on fait pour vivre dans ces conditions?
Ben, on vit une autre vie. Enfin, on se réorganise, quoi. On s'adapte. Voilà, il faut s'adapter.
Vous êtes très sévère avec la notion d'islamophobie. Vous dites qu'elle est stalinienne. Pourquoi?
Non, mais c'est un mot qu'on jette à la face des gens pour les faire taire. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie, c'est pas très flatteur d'être traité d'islamophobe. Donc... c'est une sorte d'anathème, quoi. C'est fait un peu pour faire taire tout début de, je sais même pas, de contestation, d'esprit un peu critique. Bon, faut pas se laisser impressionner par ça. Ceci dit, c'est vrai que c'est pas non plus évident. On voit aujourd'hui avec la montée de la xénophobie en Europe, on le voit même en France avec les discours de Zemmour. Il faut faire attention aussi à la manière de parler de ça. Comment à la fois être républicain et laïque sans sombrer dans la xénophobie et dans la stigmatisation.
Et vous êtes dur aussi, Guilleriste, dans le livre, avec ceux que vous appelez les collabos, c'est-à-dire ceux qui sont plus ou moins complices de l'intégrisme islamiste, justement. C'est-à-dire que 5 ans après, vous avez le sentiment qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé.
C'est plutôt... Je pense que quand on est confronté à une nouvelle forme de totalitarisme, il y a deux postures. Bon, on peut s'y opposer, puis il y a les gens qui s'en accommodent. Alors ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à ça, mais par confort intellectuel, puis par trouille.
Qui regardent ailleurs aussi.
Ouais, c'est un peu le personnage de Houellebecq dans Soumission. Finalement, néanmoins, cependant, finalement, c'est plus facile, c'est moins douloureux de s'accommoder que de se mettre en opposition, parce que si vous vous mettez en opposition, c'est le début des emmerdements, des menaces. Vous n'êtes plus dans le confort intellectuel, quoi. Voilà, c'est ça.